Chapitre 2. Le lendemain. L'eau froide de la douche lui permet de retrouver un semblant d'énergie après sa nuit cauchemardesque. Agathe prend un rapide petit déjeuner et commence sa journée. Sur le divan, un patient lui raconte ses déboires avec sa belle-mère. « Et qu'est-ce que cela vous dit ?» demande Agathe machinalement. Une question anodine de temps en temps et le moulin à paroles se remet à tourner. Ce ne sera pas une des meilleures séances de cet homme, mais elle aura sauvé les apparences grâce à une maîtrise de soi et une technique à toute épreuve. À la voir pimpante et souriante, l'homme ne se doute pas qu'elle est loin, très loin de sa belle-mère et de ses pâtisseries dominicales. Agathe aurait bien aimé avoir une belle-mère aussi conviviale, qui arrive le dimanche avec un gâteau fait maison. Au lieu de cela, non, elle ne peut pas laisser vagabonder son esprit. Son patient a droit à une oreille attentive. Au prix d'un effort qui lui coûte, elle termine les 3/4 d'heure et fixe le rendez-vous pour la semaine suivante. Le prochain patient est en fait une patiente. Mon premier souvenir est quelque chose de très vague, un éclair de conscience, une image floue, mais aussi une sensation. Je brave un interdit. Je suis assise là où c'est défendu, mais où il m'est si agréable d'être, sous la desserte entre la tirelire et la coupe de fruits. Très confortable et protégé par les colonnes du meuble. J'enferme dans mon poing une banane. J'ignore si je la savoure. Un sentiment de plénitude et de légère panique m'irradie, se transforme en une paralysante angoisse dès que j'aperçois ma tante. La femme fait une pause. L'exercice la fatigue. Elle pousse un profond soupir. Par son silence étudié, Agathe l'encourage à poursuivre. Ce qu'elle fait. C'est tout ce qui subsiste d'une période de 2 ans. Les années pendant lesquelles je résidais chez ma tante Marianne. De cette époque, je ne me souviens pas de ma mère. Absolument rien. Pas un seul reflet de sa présence. Absence totale. Pas une seule ombre. Était-elle là? La voyais-je? Je ne saurais le dire. De sa mère, ma grand-mère en revanche, oui, je m'en souviens clairement. Souvent, elle me dépose devant l'armoire à glace et je vois mon reflet dans le miroir. « Regarde comme tu es jolie, » dit-elle. Toute de blanc vêtue, je me fascine. Mes yeux se portent alors sur Gégène. Est-ce vraiment le même jour? Pouvez-vous me parler de Gégène? Qui est-ce? Après un instant de réflexion, la patiente poursuit. Gégène est un baigneur merveilleux. Il a de beaux cheveux bruns ondulés, de grands yeux bleus sous de fins sourcils, les paupières ourlées de longs cils soyeux. Il sourit continuellement. Gégène est d'une telle beauté. Le corps potelé, plein de fossettes, des lèvres rouges vermeilles et les yeux luisants, bleus avec un point noir en leur centre. Gégène possède 2 dents qui brillent violemment dans sa bouche entrouverte. Mais le plus beau, ce sont ses petons. La boule du talon comme une petite balle et ses orteils comme des billes minuscules. Si je les regarde longtemps, ils commencent à frétiller. On voit ses ongles. Les mains ouvertes, les doigts bien droits, Gégène me tend les bras. « Oh, Gégène, je voudrais te serrer contre moi, donner à ton doux corps ma chaleur, te câliner, te dorloter, embrasser tes yeux et rester avec toi, joue contre joue. Je veux rouler tes doigts entre les miens, avec mes ongles, gratouiller tes ongles, trifouiller dans la conque de tes oreilles, sucer tes orteils. Avec l'intérieur de mes lèvres, je veux goûter tes boucles et laisser ma langue errer dans tes fossettes. Gégène, Gégène, je te veux. » Grignoter tes doigts, mordre tes orteils. Repousser avec mes doigts tes dents au plus profond de ta gorge. Quelle est la profondeur de ta bouche, Gégène? Mâcher tes oreilles, te démanteler, te démembrer, te briser en mes bras. Tu dois être mien, Gégène. Gégène, je t'aime, tu es à moi. La poitrine de la femme se soulève avec force et des soupirs de plus en plus exaltés emplissent l'air. Un cri qui se termine en un râle lui échappe. Gégène, puis avec un soupir encore plus profond que les autres, elle semble s'endormir pendant que ses lèvres murmurent. Mais, sur un apron de dentelle blanche posé sur une sellette, Gégène restait hors d'atteinte pour moi. Si un doute persiste, les larmes qui ruissellent sans sanglots sur ses joues suffisent à convaincre Agathe de l'émotivité réelle de sa patiente. Sans un mot, elle lui tend la boîte de Kleenex, d'où elle pioche un voile vaporeux et s'en tamponne les yeux. Agathe est satisfaite. La séance a été fructueuse. Un barrage a disparu. Elle pourrait progresser sur le chemin dégagé des souvenirs. Agathe a un faible pour les patients dont les émotions sont authentiques et la sincérité à fleur de peau de sa patiente la touche. Elle met fin à l'entretien avec ménagement et inscrit le prochain rendez-vous dans son carnet avec plaisir. Légère, la femme la quitte, assurée de la revoir. Agathe prend l'ascenseur qui la dépose sur le palier de Rose. Avant qu'elle franchisse les portes qui s'ouvrent automatiquement, son mentor et ami l'attend avec un grand sourire. « Je ne te demande pas comment tu as dormi, mal te connaissant. Tu as deviné juste, une nuit de cauchemar. Viens prendre un café et raconte-moi ça. » Parler soulage Agathe. Après une deuxième tasse de café, Rose l'entraîne dans le salon. Une grande pièce lumineuse, baignée de soleil, dans les tons pastels. Elle se laisse tomber chacune dans un fauteuil. Rose a pris son portable avec elle. « Prête ? » demande-t-elle. « Oui, vas-y, voilà le numéro. » Rose met le haut-parleur dès que la sonnerie se fait entendre à l'autre bout du fil. « Ouais ?» prononce une voix d'homme peu amène. Rose se présente et débite le laïus qu'elle a concocté à propos de l'enquête sur les femmes et leurs menstrues. « Vraiment ? Ben, c'est sûr que vous n'avez pas grand-chose à foutre, vous autres. Mais ma femme n'est pas là. Elle est chez sa mère pour quelques jours. Si vous avez un numéro, je lui dirai de vous rappeler quand elle reviendra. Pensez-vous qu'on pourrait la joindre ? Ce serait important pour les besoins de l'enquête. Certainement pas, elle veut être tranquille. » Le ton de la voix monte. « Oui, elle est partie chez sa mère à cause de cette psy de merde qui lui a foutu tout un tas de conneries dans la caboche. Pas besoin d'une enquête qui va encore plus la déstabiliser, vous voyez ? Savez-vous quand elle reviendra ? Je pourrais peut-être essayer de rappeler à ce moment-là. » « Ben dites donc, c'est vraiment si urgent que ça, votre enquête ? Parce que moi, je crois que vous êtes une espèce de fouille merde comme l'autre qui a cassé mon mariage avec toutes ces conneries. Passez-moi votre chef. » Rose et Agathe se regardent éberluées. « Mon chef est absent en ce moment, mais il vous rappellera si vous voulez. Je lui dirai. »« Ouais, c'est ça. » Sans plus de mots, l'homme raccroche brutalement avec un juron. « Alors, tu en penses quoi ?» demande Agathe. « Tu as raison. » Pas l'air commode, le bonhomme. Mais je n'ai entendu personne à l'arrière-plan. Selon moi, Julia est bel et bien absente. Si elle est chez sa mère comme il le prétend, ça, c'est une autre histoire. Tu penses qu'on devrait téléphoner à la mère ? J'ai son numéro. Elle tend son carnet à Rose qui tape le numéro. La sonnerie se fait entendre, mais personne ne répond. Tant pis, tu devrais essayer plus tard. Elles sont peut-être sorties. Oui, peut-être. En tout cas, merci de ton aide, je vais te laisser. « Tu es sûre que ça va aller, ma grande ?»« Oui, oui, t'inquiète pas, je t'appelle dans la soirée. » Rose et Agathe se sont rencontrées une quinzaine d'années auparavant dans un asile pour femmes battues. Rose assurait une permanence quand Agathe est apparue le visage tuméfié, surprise de trouver là sa prof de psychologie. Elle avait failli rebrousser chemin et n'était restée que sur l'insistance de Rose qui lui avait fait comprendre qu'il n'y avait aucune honte à demander de l'aide, aide dont, selon toute évidence, elle avait grand besoin. Rose était tout aussi surprise de voir son étudiante et surtout de la voir dans cet état déplorable. Elles avaient parlé toute la nuit. Agathe avait eu la malchance d'épouser un homme violent doublé d'un pervers narcissique. Rose comprend très bien pourquoi Agathe prend l'histoire de Julia tant à cœur. Toutefois, elle craint qu'elle ne s'identifie trop avec sa patiente. Leur histoire se ressemble énormément, surtout que Julia est enceinte. Quand Agathe attendait son bébé, enceinte de 6 mois, son mari l'avait battue avec tant de force qu'elle avait fait une fausse couche. Il avait précipité dans l'escalier avant de se jeter à sa suite, ce qui lui avait été fatal. Rose ne regrettait pas la mort du mari, mais la perte du bébé avait été terrible pour Agathe. Né prématurément par cause des coups reçus par sa mère, le petit être n'avait pas pu être sauvé. Sa mère était restée trop longtemps évanouie au pied des marches. Le travail avait commencé alors qu'elle était encore inconsciente. Les secours l'avaient trouvée quelques heures trop tard, à côté des 2 corps inertes, celui de son mari qui s'était fracassé le crâne dans sa chute et celui du bébé ensanglanté, déjà froid tous les deux. Pendant plusieurs mois, Agathe avait été absente à son entourage. Rose avait eu beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'elle devait vivre et continuer ses études ou alors entreprendre quelque chose d'autre. Agathe ne voulait rien faire. Un jour, Rose les avait inscrites toutes les deux pour un séjour de survie en Corrèze. Cela avait été le déclic. L'instinct d'Agathe s'était réveillé. Elle devait bouger pour vivre. Rose se rappelle l'instant où l'orage transformé en mini-tornade avait emporté leur tente. Elles avaient dû, tant bien que mal, se confectionner une hutte de branchages. Rose avait compris que la bataille était gagnée. Peu de temps après, Agathe avait rencontré Francis. Il s'était plu immédiatement. Francis, un homme charmant, responsable, était pilote de ligne. Tout le contraire du premier mari. La vie semblait enfin sourire à Agathe heureuse. Ils se marièrent rapidement. Ils n'étaient pas pressés d'avoir des enfants. Heureusement, car le destin frappa encore. Un terrible accident et l'avion de Francis disparaissait en mer un soir de tempête. Entre-temps, Agathe avait passé ses examens et elle exerçait comme thérapeute. Rose craignit pour sa santé mentale. Contre toute attente, Agathe surmonta en quelques mois ce coup du sort par un haussement d'épaule accompagné d'un « c'est la vie » et de gros sanglots pendant toute une soirée. Le lendemain matin, Agathe, réveillée dans la chambre d'amis, avait déclaré « Je ne referai pas la même erreur. Je sais qu'il faut vivre avec ce malheur. C'est tout. Francis n'aurait pas voulu que je me morfonde. » Rose l'avait raccompagnée chez elle. Depuis, tout paraissait en ordre. Mais Rose savait aussi que le trauma ou la dépression peuvent surgir à l'improviste ou à l'occasion d'une situation similaire à celle qui a fait plonger le patient dans les affres du noir la première fois. Pour cette raison, elle surveille Agathe de près. Demain, elles partiront 2 ou 3 jours dans sa maison de campagne. Seulement à 1 heure de Châteauroux, la maison de campagne de Rose est équipée de tout le confort. Un ancien abri de pêche à la lisière d'un bois était transformé en un nid douillet. D'un côté, des champs séparés par des bouchures, de l'autre, des arbres avec un petit lac bordé d'un tour herbeux. Une source s'écoule entre les rochers et l'alimente été comme hiver. Le trop-plein serpente en ruisseau à l'opposé. Un endroit idyllique où on peut profiter de la nature avec les contreforts du massif central qui s'estompent dans le lointain. Rose et Agathe sont arrivées hier au soir et se sont reposées devant le spectacle des étoiles, assises sur la terrasse. Agathe est souvent venue et elle connaît bien les environs. Elle revient de son jogging et joue vive et salue Rose qui l'attend avec une cafetière odorante et des viennoiseries cuites au four. Ça sent drôlement bon, lance Agathe après avoir envoyé à son ami un baiser du bout des doigts. Je ne t'embrasse pas, je suis en sueur. Bisous, bisous, fait Rose en mimant des baisers avec ses lèvres. Je me douche et je te rejoins. Un rouge-gorge intrépide se pose sur la corbeille de viennoiserie et regarde d'un œil empli de convoitise les croûtes dorées sur la serviette blanche. Rose, curieuse de voir s'il va oser picorer dans un croissant, l'observe entre ses cils. Immobile, elle retient sa respiration. L'oiseau penche 2-3 fois sa petite tête de droite à gauche, puis décide de voleter sur le dossier de la chaise voisine, un meilleur observatoire pour dominer la scène. Toutefois, il s'envole vers le gros chêne quand Agathe revient en s'ébrouant les cheveux dans une serviette. « Café ?» demande Rose, une tasse en attente. Ce n'est pas de refus. Agathe prend une gorgée et laisse ses yeux errer au loin. « Prête pour le téléphone ?» Rose tient un combiné archaïque entre ses doigts. C'est un vieil appareil en bakélite qui semble avoir résisté aux outrages du temps. Aussi solide que les pierres qu'il abrite. Agathe l'observe, ébahie. Il marche encore? Ben oui. Comme cela, personne ne saura que c'est nous qui avons appelé. Bonne option. Je ne savais pas que tu avais un fixe, ici. Il est relié à la parabole que tu ne vois pas. Elle est dissimulée dans le bosquet de bambou, là-bas. C'est trop moche, ces trucs, même si c'est bien pratique. Incroyablement ingénieux. Tout le confort est discret, en plus. Tu ne l'as jamais remarqué, car tu te sers toujours de ton portable. On a même la télé. De surprise en surprise. « Allez, on y va. Prends l'écouteur. » La voix de la mère de Julia est celle d'une jeune femme. Agathe fait rapidement le calcul. Elle doit pourtant avoir près de 70 ans. « Non, Julia n'est pas chez moi. Elle n'est pas venue depuis un moment. Au moins 2 mois. » Agathe écarquille les yeux et Rose ne laisse rien transparaître. Après avoir salué poliment, elle raccroche. « Ce n'est pas normal !» s'exclame Agathe. « Je te l'accorde. Quoi faire ? Rappelle-le, lui. Avec la même histoire ?» Ben oui. Non, demande plutôt directement Julia. Il ne reconnaîtra peut-être pas ta voix. Mets un mouchoir sur le combiné. Toi, tu regardes un peu trop Netflix, s'esclave Rose. Mais elle suit l'idée d'Agathe et pose une serviette en papier sur le micro. Le mari ne reconnaît pas sa voix, car elle prend soin de changer son intonation. Son timbre est plus haut, sa prononciation est un peu hésitante et son débit plus lent. Une de vos collègues a déjà téléphoné hier. Je lui ai dit que ma femme est partie chez sa mère. « Vous autres, vous devriez mettre vos dossiers à jour au lieu de déranger à chaque fois les gens avec vos sornettes. » Aussi peu poli que la veille, il coupe la communication sans plus de cérémonie. C'est clair, le mec ment, explique Agathe. Ça en a bien l'air. On doit aller voir la police. Et pour lui dire quoi? Que ta patiente n'est pas venue à sa séance? Que son mari dit qu'elle est chez sa mère et que sa mère dit qu'elle n'est pas chez elle? Tu as raison, c'est plutôt mince, mais je ne le sens pas. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Julia. Allons-y et on verra bien. Et si il y a en effet quelque chose, on pourra dire qu'on a fait ce qu'on a pu. Jamais je ne me pardonnerai de n'avoir rien fait s'il s'avère qu'elle est dans les problèmes graves. Rose voit bien qu'il est inutile d'essayer de faire entendre raison à Agathe. Bon d'accord, je m'habille et on y va. L'air de rien, Rose s'arrange pour qu'elle prenne sa voiture. Il est préférable que ce soit elle qui assure le volant. Agathe ne tient pas en place. Ses mains virevoltent autour de sa tête, se posent sur le tableau de bord, reviennent sur ses genoux pendant qu'elle parle. « Tu te rends compte de ce mec? Incroyable comme il ment !»« Je ne veux pas te contredire, mais... »« Mais quoi? Il y a aussi une autre possibilité. »« Ah oui? Laquelle? Tu l'as entendu, tu as écouté la mère ?» Ne t'est-il pas venu à l'idée que ce pourrait être Julia la menteuse dans l'histoire? Julia? Mais pourquoi? Comment? Je l'ignore, mais elle pourrait lui avoir dit qu'elle allait chez sa mère et être partie autre part. Je ne le crois pas. Pas Julia. Elle n'est pas comme ça. C'est lui qui raconte des bobards. J'en suis certaine. Ce que j'en dis, c'est qu'il faut envisager toutes les possibilités. Dans ce cas, ce peut être aussi la mère qui nous mène en bateau. « Exactement. Ce que je veux dire, c'est que les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça. Ce qui est certain, c'est que c'est un homme brutal, un salopard qui bat sa femme, qu'elle a peur de lui et qu'elle n'est pas venue à sa séance sans prévenir, ce qui est tout à fait inhabituel. » Elle roule un moment en silence et arrive devant le commissariat. « Il y a autre chose. Peut-être qu'avant d'entrer faire notre déposition, on devrait téléphoner encore une fois à Julia. » « C'est juste. Tu as raison, refais le numéro du fixe. » Personne ne répond. La porte à tambour ne laisse entrer qu'une seule personne à la fois. Rose laisse passer Agathe devant elle. Elle a ses tourniquets en horreur. L'agent de l'accueil les dirige vers un banc et leur assure qu'une personne va s'occuper d'elle rapidement. Un bref instant plus tard, une jeune femme en uniforme vient les chercher et les précède le long d'un couloir jusqu'à un bureau dont elle ouvre la porte. « Entrez, je vous prie. » Rose prend le temps d'observer autour d'elle avant de s'asseoir sur le siège que lui désigne l'homme derrière le bureau. Une grande table disparaît sous les dossiers empilés, des parois tapissées d'étagères croulant sous les livres dénoncent une charge de travail monstre. Agathe se laisse tomber sur la chaise offerte, cet homme l'impressionne un peu. Forte carrure, les cheveux poivre et sel, ramassés en catogan sur la nuque, il croise les mains sous son menton. « Dites-moi ce qui vous amène. » Agathe et Rose se regardent, ne sachant pas trop par où commencer. Agathe se jette à l'eau. « Ma patiente a disparu. » Le silence retombe dans la pièce. L'homme a-t-il entendu ou non? Il reste impassible. Agathe est sur le point de répéter sa phrase quand il ouvre la bouche, posant ses deux mains à plat sur le sous-main devant lui. « Vous pouvez m'en dire plus? Qu'entendez-vous par « disparu »?»« Elle n'est pas venue à sa séance sans prévenir. » L'homme pousse un soupir et souffle de l'air en gonflant ses joues. Il regarde Rose qui n'a pas dit un mot. « Et vous êtes ?» demande-t-il en prenant une feuille de papier de la bannette à sa gauche. « Je suis une amie. » « D'accord. » Il dirige à nouveau son attention vers Agathe. « Vous êtes docteur et votre patiente n'est pas venue. »« Quel genre de docteur ?» demande-t-il en dévissant le capuchon d'un stylo plume Montblanc noir. « Je suis psychologue. » « Et cette patiente ne s'est pas présentée à une séance ?» « C'est exact. » Elle a un nom, cette patiente? Julia Matisse. L'inspecteur écrit le nom sur sa feuille. Et vous êtes? Agathe Dupré. Et madame est aussi une patiente? Demande-t-il avec un mouvement du menton vers Rose. Non, juste une amie. Bon, alors cette patiente, Julia Matisse, vient régulièrement pour une séance. Et où se déroulent ces séances? À mon cabinet, chez moi. Le policier note toutes les adresses et continue à poser quelques questions. « Pourquoi venez-vous au commissariat pour déclarer qu'une de vos patientes a raté sa séance? Cela doit arriver souvent, non ?»« Écoutez, je sais qu'il est arrivé quelque chose. Julia prévient toujours lorsqu'elle ne peut pas venir. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle a bien une famille. Vous vous êtes renseigné auprès d'elle avant de venir ?»« Je sais que ça a l'air bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais son mari est une brute. Il la frappe et la bat régulièrement. Dernièrement, elle a dû aller aux urgences. Elle est enceinte. Son mari dit qu'elle est partie chez sa mère, mais sa mère dit qu'elle ne l'a pas vue depuis plusieurs semaines. Peut-être qu'elle ne veut pas vous parler et demande à son mari de dire qu'elle n'est pas là. Mais non, vous ne comprenez pas. Je sais qu'il y a autre chose. Et comment le savez-vous? J'en ai l'intuition. L'intuition. Vous voyez, nous, enfin la police, nous travaillons avec des preuves. Ce que vous me dites, une patiente qui ne vient pas au rendez-vous, un mari qui dit qu'elle est absente et partie chez sa mère, une mère qui annonce ne pas l'avoir vue, ce ne sont que des rumeurs, des on-dits, mais pas de preuves qu'il y ait lieu pour la police d'intervenir. Mais enfin, le coupe Agathe, il lève la main pour lui faire signe de l'écouter. Comprenez-moi bien, madame. Nous n'avons reçu aucune plainte de violence familiale. Je veux bien croire ce que vous me dites et que le mari de madame Matisse, oui, c'est ça, Matisse, là-bas, mais si elle n'a jamais porté plainte, ce n'est que ce que vous dites. Mais vous ne pouvez pas passer chez eux pour voir si tout est normal, intervient Rose, silencieuse jusqu'à là. Pris de court par sa question inopinée, l'inspecteur regarde de droite à gauche comme si la réponse allait surgir d'un coin de la pièce. Et pour dire quoi, demande-t-il enfin? Je ne sais pas, moi, regardez si tout est en ordre. Mais vous vous attendez à quoi, toutes les deux? Que le mari va ouvrir la porte et qu'on verra le cadavre de sa femme derrière lui dans le couloir? Non, mais... Mais quoi? Vous ne pouvez pas à la rigueur téléphoner? À la rigueur, peut-être. Oh oui, s'il vous plaît. Donnez-moi le numéro. On décroche. Rose et Agathe n'entendent qu'un côté de la conversation, assez courte par ailleurs. Elles sont curieuses de connaître les paroles du mari. Eh bien, merci, dit le policier. Demandez-lui, s'il vous plaît, qu'elle me téléphone quand elle reviendra. Puis il raccroche et s'adresse aux deux femmes. Votre patiente est allée faire des achats, elle me rappellera à son retour. Vous voyez, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais il nous a dit qu'elle était chez sa mère, et ce n'était pas vrai. Pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Et c'est déjà beaucoup, en fait. Il n'y a aucune raison pour moi d'insister. Julia Matisse est sortie, elle rappellera à son retour, fin de l'histoire. Attendons son coup de fil, je vous tiens au courant. Il se lève, signifiant ainsi la fin de l'entretien. À contre-cœur, Agathe se hisse de sa chaise. Elle ne rappellera pas, je vous le dis. On verra.